Hélène Philly, bonsoir.
Bonsoir à tous. Le retour des maths en première, pas dans le tronc commun, mais en option. Il va falloir courir pour organiser tout ça dans les lycées d'ici à la fin de l'année, annonce aujourd'hui d'Emmanuel Macron à Marseille, qui en profite pour renouveler sa confiance au ministre de l'Intérieur et au préfet Didier Lallement après le fiasco du Stade de France samedi dernier. L'actualité, c'est encore la guerre en Ukraine. 100 jours demain, les Russes tiennent 20% du territoire. Areva, mise en examen pour n'avoir pas assez protégé ses salariés enlevés en 2010 par des djihadistes au Niger. Et puis le tennis, Roland-Garros, on connaît désormais l'affiche des finales chez les femmes. L'américaine Coco Gauff rejoint la numéro 1 mondiale Iga Swiatek. Et juste après ce journal, retour à Londres avec vous Fabienne.
Mais absolument, on se retrouve ici au pied de la statue de George VI sur la route vers Buckingham Palace. On a évoqué pendant toute cette première heure ce que représente cette reine pour son peuple. On va parler aussi encore de l'après. Vous entendrez les Britanniques expliquer jusqu'à quel point plus rien ne sera plus comme avant après cette reine. On flâne désormais ici dans ce St James Park. C'est là qu'on se retrouve, Hélène, dans un tout petit quart d'heure. Et si vous êtes sage, je vous ramène un petit drapeau. Allez, à tout à l'heure.
France Inter. Les maths seront bien de retour l'année prochaine en classe de première, mais en option. Annonce donc d'Emmanuel Macron cet après-midi à Marseille où il s'est rendu avec le ministre de l'Éducation, Pap Ndiaye. La discipline était devenue, depuis la réforme de Jean-Michel Blanquer, une spécialité et l'enseignement avait brusquement chuté en terminale, notamment chez les filles. Bonsoir Sonia Princey.
Bonsoir.
Ce retour était donc réclamé.
C'était même une évidence depuis le début de cette réforme du bac qu'il fallait maintenir les mathématiques, mais ce n'est qu'en mars dernier qu'Emmanuel Macron a admis qu'il fallait les rétablir dans le tronc commun. Il en avait fait une promesse pour la rentrée prochaine, pour tous les élèves de première qui ne suivaient pas la spécialité maths. C'est finalement un compromis, ce ne sera qu'une option d'1h30 par semaine pour les élèves qui le souhaitent et une concertation sera engagée pour 2023. Olivier Toutain, le président de la Fédération des parents d'élèves PEP, est satisfait de cette demi-mesure.
Il était nécessaire que les mathématiques soient réintroduites parce que l'on se rend bien compte que ceux qui n'ont plus de mathématiques ont des difficultés ensuite au niveau du supérieur. Ce que l'on peut imaginer, c'est que des élèves demandent à changer leur spécialité, voire que le choix leur soit donné au moment de la rentrée en septembre de dire « est-ce que vous souhaitez suivre les cours de mathématiques dans le tronc commun ou pas ?»
Voilà, un retour attendu mais qui est annoncé à quelques semaines de la fin de l'année, donc pas simple à organiser.
Oui, parce que les élèves de seconde ont déjà fait leur choix de spécialité et les conseils de classe qui les valident ont lieu en ce moment, comme l'explique Bruno Bobkevitch, le secrétaire général du syndicat des chefs d'établissement SNPDEN.
La difficulté qui se pose là, c'est l'information claire en direction des élèves et des familles, parce que l'information arrive très tardivement, c'est ce qu'on craignait. Moi j'ai un conseil de classe dans 30 minutes, on va devoir modifier nos formulaires d'inscription, de réinscription, parce qu'ils se font dans la foulée des conseils de classe. Et là, on est sur une opération qui se fait vraiment dans les jours qui viennent. Donc on va devoir ajuster tout ça. Il faut admettre que c'est assez inconfortable.
De l'inconfort et de l'incertitude aussi, puisqu'on manque de professeurs dans cette discipline. Le ministère avait estimé qu'il fallait 400 postes supplémentaires à la rentrée si les maths revenaient dans le tronc commun. Une simple option sera beaucoup moins gourmande en postes. C'est pour cette raison aussi que ce choix a été fait.
Sonia Princey, dès la rentrée, les élèves d'école élémentaire font aussi 30 minutes de sport chaque jour. Autre confirmation aujourd'hui du président qui dit aussi sa volonté de généraliser dans les prochains mois l'expérimentation lancée dans 59 écoles marseillaises pour donner plus de liberté de recrutement pour les directeurs et pédagogique pour les enseignants. Et puis Parcoursup commence à délivrer en ce moment même ses premières réponses aux élèves de terminale sur leurs vœux pour la suite de leurs études, à une exception près, Sciences Po Paris qui ne donnera ses résultats que la semaine prochaine à cause de retards pris dans les oraux d'admission, dit l'école. Le monsieur Parcoursup du gouvernement, Jérôme Teilhard, veut tout de même rassurer, il n'y a pas là de quoi gripper la machine.
La réponse arrivera ultérieurement, mais elle s'inscrira dans leur ensemble de vœux, finalement, et dès aujourd'hui, et puis dans le week-end, avec les discussions en famille, ils recevront sans doute aussi des propositions, et ils peuvent déjà faire des choix. C'est à eux ensuite, un peu comme sur toutes les formations, c'est-à-dire, quand un vœu, s'il n'y a pas de réponse, ou un vœu est en attente, ils peuvent le conserver en même temps qu'ils choisissent leur formation. Donc, pas de difficultés introduites. Simplement, voilà, les classements seront intégrés plus tard pour Sciences Po Paris.
N'y a-t-il pas tout de même une espèce de traitement de faveur pour Sciences Po Paris qui a l'autorisation de décaler ses résultats?
Non, il n'y a pas de traitement de faveur. Vous savez, les règles, elles sont fixes pour l'ensemble des formations. Selon que les résultats sont transmis à Parcoursup pour être intégrés, eh bien les formations démarrent le 2. Si les classements ne sont pas remontés dans les délais, eh bien la formation elle démarre un petit peu plus tard. C'est le cas pour Sciences Po Paris.
Jérôme Teilhard au micro de notre confrère de France Culture Stanislas Vazak. D'autres craignent au contraire des effets en cascade, puisqu'en attendant le verdict de Sciences Po, les élèves candidats se retourneront vers d'autres filières au risque de faire gonfler les files d'attente. Emmanuel Macron, je le disais, était à Marseille cet après-midi et il est sorti du silence sur le fiasco du Stade de France samedi dernier. Le chef de l'État renouvelle sa confiance en Gérald Darmanin et Didier Lallement.
Les ministres, je les nomme, j'ai confiance en eux. C'est le cas aussi du ministre de l'Intérieur. Et c'est le cas aussi du préfet qui représente la République et l'ordre public et qui a été confronté justement à un afflux massif. Et donc, je veux que le gouvernement puisse faire son travail, que en toute transparence, on puisse tirer tous les enseignements. Je vais ici redire ma confiance dans les intéressés.
Voilà, deux enquêtes ont été ouvertes et un rapport attendu d'ici à la fin du mois sur les incidents. Grève inédite des diplomates aujourd'hui, inquiet de la suppression du corps diplomatique décidé par Emmanuel Macron. Une réforme qui met en danger, selon eux, l'efficacité et le prestige de la diplomatie française. Diplomatie essentielle alors qu'une guerre est à nos portes en Ukraine. 100e jour de conflit demain. Et le président Zelensky rendait compte aujourd'hui de la progression des troupes russes.
Aujourd'hui, environ 20% de notre territoire est sous contrôle de l'occupant. C'est beaucoup plus que l'ensemble des pays du Benelux. Les envahisseurs rasent les villes les unes après les autres. Regardez Mariupol. Il y avait 500 000 de personnes là-bas. Une vie paisible, ordinaire, un centre industriel important. Aujourd'hui, la ville est en ruine. Et nous ne savons toujours pas le nombre exact des victimes. Au moins des dizaines de milliers en moins de 100 jours.
Volodymyr Zelensky, traduit par Franck Madvon et Denis Katayev, est sur le 6e paquet de sanctions décidé il y a 2 jours par les 27. La Hongrie tentait encore, il y a quelques heures, de négocier. Elle, qui a déjà arraché une exemption sur l'embargo pétrolier, voulait obtenir en plus le retrait du chef de l'église orthodoxe russe, le patriarche Kirill, des personnalités sur la liste noire de l'Union européenne. Et Budapest l'a obtenu, Angélique Bouin.
La Hongrie avait déjà émis des réserves le mois dernier, mais Viktor Orban ne l'a pas évoqué lundi. Stupéfaction donc hier lors de la réunion des ambassadeurs qui devait valider juridiquement l'accord trouvé au sommet. Le patriarche Kirill est un fervent supporter de la guerre en Ukraine. En sa qualité de chef de l'église orthodoxe, c'est un outil de propagande en Russie, dit la commission. Plusieurs capitales, dont les États baltes, ont d'abord refusé de le retirer de la liste noire. Mais c'était sans compter sur la détermination de Budapest, qui n'a donc rien lâché, malgré 24 heures de pression. Pour valider l'ensemble du paquet de sanctions, il fallait l'unanimité. Relancer des négociations aurait sans doute été encore plus désastreux. Ce 6e paquet de mesures, même sans Kirill, aura un impact majeur et c'est ce qui compte, confie plusieurs diplomates. Une concession qui laisse néanmoins perplexe. Comment va-t-on s'assurer que le Premier ministre hongrois tiendra son engagement à se couper progressivement lui aussi du pétrole russe? La Hongrie ne bénéficie toujours pas de son plan de relance et il y aura d'autres leviers financiers, assure une source diplomatique. Bruxelles, Angélique Bois, France Inter.
L'embargo pétrolier décidé par l'Union va se mettre progressivement en place d'ici à la fin de l'année et la France a des stockages stratégiques, a voulu rassurer ce matin la ministre de la Transition énergétique, alors que l'Agence internationale de l'énergie met en garde contre un risque de pénurie de carburant cet été. Quant au prix, ça ne s'arrange pas, même si la France s'en sort mieux que ses voisins. Pour la première fois en 37 ans, l'inflation dépasse les 5% sur un an, une hausse qui grignote en moyenne 90 € par mois et par foyer, selon la dernière étude de 60 millions de consommateurs. Les Français font attention et se privent, y compris sur l'alimentaire. Romane Porcon s'en est rendu compte au supermarché de Templeuve, près de Lille.
Sur le parking du supermarché, Véronique repart avec un caddie plein, de quoi tenir une semaine.
On calcule tout, on est au centime près.
Là, ça m'a coûté 200 €. Et encore, j'ai pas la viande. Je profite en fait des chèques différés. Le magasin vous propose de différer l'encaissement de votre chèque. Ça me permet de payer d'autres factures.
Et même avec tous ces calculs, cette maman de 2 enfants est obligée de faire des choix.
Je me serre la ceinture, mon conjoint se serre la ceinture parce qu'on n'a pas envie de priver les enfants. Je vous cache pas qu'il y a des moments, le midi, ça me dérange pas de sauter un repas. Moi, je me dis la viande que j'ai pas mangé le midi, je la laisse pour mes enfants le soir.
André, retraité, lui, scrute toutes les bonnes affaires dans les rayons promotion.
Moi, j'ai envie de prendre la paella pour le prix quand même. 6 €, c'est pas cher, regardez.
Il y a aussi les cordons bleus.
Oui, regardez, 4 plus à offert. Bah, 1 centime par-ci, 1 centime par-là, ça va vite hein, si vous faites le compte sur un mois.
Surtout quand on voit que depuis un an, par exemple, le prix de la viande surgelée a augmenté de 18%. Pour y faire face, le directeur du supermarché Thomas Pocher multiplie les opérations promotion.
On a une zone qui a beaucoup de succès, qui est la zone anti-gaspi, avec une remise parce que c'est à consommer aujourd'hui. Des barquettes de viande qui subissent une réduction de 30%, un petit burger 1,68€ versus 2,40€ au départ.
De quoi faire face donc à l'inflation, surtout qu'elle n'est pas prête de s'arrêter là. Selon le ministre de l'économie, elle pourrait se poursuivre jusqu'à fin 2023.
Un reportage France Bleu Nord. Le coût du logement compte aussi, on en parlait hier. Des associations manifestent aujourd'hui à Paris pour réclamer des mesures fortes face à la hausse des loyers. Le logement, l'immobilier parmi les préoccupations premières des Français. Et pour l'instant, aucun interlocuteur, aucun ministre en charge. Bonsoir Maxime Debs.
Bonsoir.
45 acteurs importants du secteur ont donc symboliquement remis un manifeste aujourd'hui au gouvernement avec des propositions.
Ouais, une dizaine de priorités qui résonnent en ce moment avec ce logement difficilement accessible à la location pour les plus précaires, mais aussi à l'achat pour qui ne dispose pas d'un apport. Pourquoi ne pas créer alors une avance de trésorerie pour ces Français? Par exemple, Henri Buzy-Cazot, expert de l'immobilier, parmi ces acteurs qui interpellent l'État.
Sur 100 acquisitions qui se font dans ce pays, les bonnes années, on en a 60 qui sont le fait de ménages qui achètent pour la première fois. Eh bien, cette proportion, elle n'arrête pas de baisser.
Il faut agir, c'est le sens de ce manifeste, de cette action entamée il y a 4 mois par ces acteurs du logement à l'initiative de la plateforme Se Loger. On a été bien inspirés, estime sa directrice Caroline Deganté.
Nous trouvions que, tout simplement, le logement était déjà le grand absent. Et donc, à date, 4 mois après, la place du logement reste vide.
Une aberration pour Henri Buzy-Cazot dans la guerre des prix, justement engagée en ce début de quinquennat.
La question du prix du logement, bien avant l'inflation d'ailleurs, elle se posait. Ça fait 20 ans dans ce pays qu'on est inefficace pour maîtriser, freiner la dérive des prix du logement. Donc il faut un porteur du dossier logement au gouvernement.
Un ministre, peut-être un secrétaire d'État, pourrait, devrait être nommé après les législatives. En attendant, promet-il, on continuera à se faire entendre.
Et puis, il réclame des hausses de salaire tenant compte de l'inflation. Mouvement de grève très suivi aujourd'hui chez les agents de l'énergie. Plusieurs dizaines de milliers de foyers ont subi des coupures d'électricité dans le nord et l'ouest. Toute la ville d'Angers, pendant 3 heures à la mi-journée, 175 000 logements touchés. C'est la grand-mère inamovible, toujours en poste à 96 ans. La reine Elisabeth II fête ses 70 ans de règne et c'est un tel événement que les Britanniques ont droit à 4 jours fériés, parade militaire ce midi devant le palais de Buckingham, la reine au balcon, ovationnée par la foule, Farida Noir au milieu.
La parade militaire s'élance, la foule collée aux barrières se régale de voir ce spectacle comme Kim.
Je suis là pour célébrer une femme extraordinaire qui a donné sa vie pour servir le pays, avec intégrité. Pour moi, c'est la déesse ultime, une femme en or.
Kate Middleton, Camilla passe en carrosse, mais celle que tous espèrent voir, c'est la reine. Et elle apparaît enfin au balcon, seule dans un premier temps, habillée d'un tailleur bleu pastel, canne à la main. Puis elle s'éclipse, Patricia espère la revoir.
Elle est là avec toute la famille et... Oui, elle attend maintenant pour les avions, pour le fly pass.
Et en effet, au moment du défilé aérien, la revoilà entourée de sa famille. Béatrice, une Suisse, venue spécialement et particulièrement émue, très inquiète de la santé de la reine.
Il me restait à croiser les doigts, à espérer de tout cœur que la reine arrive jusqu'à son jubilé, puisqu'on sait qu'elle est affaiblie, elle est peut-être malade, mais il fallait qu'elle soit là et il fallait que je sois là.
Felicity a pu la voir en gros plan grâce à l'écran géant et elle est rassurée.
Elle avait l'air très émue, surtout quand l'avion a dessiné dans le ciel le nombre 70. Elle avait l'air bien, c'est une femme forte.
Sa mère était centenaire, elle aussi tiendra le coup encore très longtemps, professe-t-elle. À Londres, Farida Noir, Lucien Lefebvre pour France Inter.
Et il y avait une deuxième star sur le balcon cet après-midi, le prince Louis, 4 ans. Rien de tout ça ne l'impressionnait visiblement et ça a fait le bonheur des photographes, ses grimaces, ses bâillements ou quand il se bouche les oreilles au passage du défilé aérien. Cette question, à présent, Areva aurait-il dû mieux protéger son personnel? 12 ans après l'enlèvement de 7 employés, dont 5 Français par des djihadistes dans la mine d'uranium d'Arlit au Niger. Niger. Le géant nucléaire vient d'être mis en examen par un juge du pôle antiterroriste de Paris. Bonsoir Emmanuel Leclerc.
Bonsoir.
La justice reproche à l'entreprise d'avoir sous-évalué le risque d'attaque.
Absolument, avec un chef de mise en examen pour blessure involontaire par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité. On sait que la base vie, le quartier dans lequel vivaient les expats d'Areva, était non clôturé, juste des palissades en bois, sans parler des logements, là encore sans porte ou une pièce avec au moins un léger blindage, alors que plusieurs ressortissants français avaient été enlevés au Sahel à cette époque avant 2011. Olivier Maurice est l'avocat de l'un des otages d'Arlit.
C'est effectivement très important parce que de nombreuses alertes, notamment de mise en cause de nos compatriotes ou d'étrangers sur place, n'avaient pas conduit Areva à mettre en œuvre, en termes de sécurité, tout ce qui aurait dû l'être. Moi, j'ai l'honneur de défendre Pierre Legrand. Pierre Legrand était un jeune homme lorsqu'il a été enlevé et séquestré. Il avait 25 ans et il a été enlevé, détenu, torturé pendant près de 3 ans, ce qui est absolument considérable.
Le groupe Areva que nous avons joint via son avocate dans ce dossier n'a pas souhaité commenter cette mise en examen. Lors de l'instruction, la société a rappelé que le pouvoir au Niger interdisait d'avoir des gardes armés privés et que c'était des gendarmes et la police qui surveillaient le site et qu'ils ont mis plus d'une heure et demie avant de réagir.
Emmanuel Leclerc, l'étranger encore. 2 employés de la Croix-Rouge ont été tués au Mali dans l'attaque de leur voiture à l'ouest du pays. Et puis l'amende maximale requise aujourd'hui contre la Yemenia Airways au dernier jour du procès de la compagnie pour homicide et blessures involontaires après le crash de l'un de ses avions en 2009 au large des Comores. 152 personnes sont mortes, décision le 14 septembre prochain. Les effets néfastes des perturbateurs endocriniens ne sont plus à prouver, mais les risques sont multipliés pendant la grossesse pour la mère et le fœtus. Un sujet d'étude pour les chercheurs. La Fondation pour la Recherche Médicale investit même 9 millions d'euros pour prévenir l'impact de ces polluants qu'on trouve partout autour de nous et qui peuvent avoir des effets visibles sur les enfants jusqu'à des années plus tard, Célia Quiret.
Lorsque la future maman est exposée à des pesticides ou à des polluants chimiques, ils traversent le placenta et leurs effets toxiques sont amplifiés sur le fœtus. Impact sur le développement neurologique de l'enfant, apparition de cancer, d'allergies. Certains liens sont avérés. Nabila Jabran-Ferra est directrice de recherche au CNRS et à l'INSERM. Elle coordonne une étude sur les effets des produits toxiques sur le placenta.
On va avoir des problèmes d'apprentissage. Par exemple, avec certains produits, on a vu qu'il y a une perte de l'audition. On a des problèmes de vision. Tout ça, c'est des atteintes neurologiques qui ont peut-être eu lieu par une exposition dans l'utérus. On peut avoir des effets au niveau de l'organe reproducteur, par exemple les ovaires chez les filles, ou alors les testicules chez le garçon. On va avoir à l'âge adulte des effets sur la fertilité. Tous ces effets, on ne va pas les voir à la naissance.
Et parfois, ces polluants ont des effets sur plusieurs générations. Compte tenu des pathologies graves constatées, Robert Barouki, professeur à l'université Paris-Cité, défend le principe d'un toxiscore pour indiquer le degré de toxicité de certains produits.
Il est très important que la population soit informée sur ce qu'il y a dans un produit de consommation, dans un aliment ou dans un produit cosmétique. Je pense qu'il faut maintenant prendre l'initiative de préparer ce toxiscore pour informer la population de manière simple.
Enfin, par précaution, ces scientifiques conseillent aux femmes enceintes de préférer les cosmétiques et les légumes bio et de filtrer l'eau du robinet.
L'Organisation mondiale de la santé estime qu'un quart des décès et des pathologies chroniques dans le monde peuvent être attribués à des facteurs environnementaux. Allez, on file sur les cours de Roland-Garros parce qu'on a l'affiche de la finale féminine. La numéro 1 mondiale, Iga Swiatek, a balayé la Russe Kazatkina en 1h02 et elle retrouvera en finale l'Américaine Coco Gauff qui a battu l'Italienne Martina Trevisan. Bonsoir Guillaume Batin.
Bonsoir.
2 finalistes de seulement 19 et 21 ans.
Oui, c'est le tennis masculin est dominé par les trentenaires. Djoko, Nadal, 35 ans, Marin Cilic, 33 ans. Le tennis féminin, lui, a déjà renvoyé au vestiaire l'ancienne génération avec ses 2 finalistes. Coco Gauff, l'américaine, est arrivée sur le circuit professionnel à l'âge de 15 ans. On se souvient de ses 2 victoires retentissantes en 2019 et 2020 au premier tour de Wimbledon et de l'Open d'Australie face à son idole, Venus Williams. 3 ans plus tard, à 18 ans, la voilà qualifiée pour la première fois de sa carrière en finale d'un grand chelem. L'élève du français Patrick Mouratoglou, ou dans son académie du sud de la France a fait preuve de puissance, de précision cet après-midi face à l'italienne Martina Trevisan. 6-3, 6-1, c'est sévère, un peu moins précoce, mais tout aussi impressionnante de maturité pour son adversaire en finale, la polonaise Iga Swiatek, numéro 1 mondial à 21 ans seulement, vainqueur de Roland-Garros 2020, celle que l'on surnomme le rouleau compresseur, n'a fait qu'une bouchée de la russe Daria Kasatkina. 6-2, 6-1, sévère tout autant en 1h04. Cette finale dame est déjà entrée dans l'histoire pour sa moyenne d'âge, 20 ans seulement.
Et rendez-vous demain pour les demi-finales masculines. Rafael Nadal face à Alexander Zverev. Puis le duel entre le Norvégien Casper Ruud et le Croate Marin Cilic. Le temps.
La météo avec Euromaster. Toujours là pour entretenir les véhicules des pros. Suivi préventif, entretien sur site ou en centre, Euromaster est au service de votre mobilité et de votre sécurité.
Et c'est avec vous. Bonsoir Jean-Pierre Rameau. Les orages vont rester au menu du temps, de la météo jusqu'à dimanche.
Oui Hélène, nous allons rester sous l'influence d'une masse d'air chaud, humide et instable pour les trois jours à venir. Demain matin, ces orages seront très localisés entre les Pays de Loire et les frontières du Nord et du Nord-Est, en passant par l'Île-de-France. Ils seront plus fréquents et parfois forts l'après-midi entre la côte atlantique et les frontières du Nord. En revanche, le soleil fera de la résistance entre la Bretagne et la Normandie en remontant vers les plages du Nord, mais aussi près des régions méditerranéennes et le long du couloir rhodanien. Samedi, l'ambiance restera orageuse dans la plupart des régions, excepté du Languedoc-Roussillon, massif alpin, en passant par PACA et la Corse. Et attention, on surveillera la formation d'orages violents vers le sud-ouest en soirée, gagnant le massif central et le Morvan en cours de nuit. Et puis dimanche, ces orages vont se décaler vers les frontières de l'Est, remplacés par de l'air plus frais, plus sec et plus respirable.
Merci Jean-Pierre Rameau.